Fidèles auditeurs et auditrices, bonsoir. Bienvenue au forum du studio Kalangou, l'émission qui vous permet de mieux comprendre les questions d'actualité et de société que vous vous posez régulièrement. Quelles solutions alternatives à l'utilisation du bois pour la fête de Tabaski au Niger est notre thème de ce soir, le samedi 9 juillet 2022, au 10e jour du mois de Zulhijja de l'année 1443 du calendrier musulman. La fête de Tabaski sera célébrée au Niger. Une fête marquant la fin du Hajj à la Mecque et à l'occasion de laquelle il est recommandé à tout fidèle musulman ayant les moyens de sacrifier un animal en mémoire au sacrifice d'Abraham. À Niamey, tout comme dans d'autres localités du Niger, cette fête de Tabaski rime avec la grillade des carcasses de moutons. C'est ainsi que cette fête offre une journée presque entière de grillade avec un grand recours à des combustibles comme le bois ou le charbon. Une pratique qui, aux yeux des acteurs de l'environnement, n'est pas sans conséquences écologiques pour un pays sahélien en proie à la désertification comme le Niger. Quelles sont les conséquences de l'utilisation du bois lors de cette grillade sur l'environnement au Niger et quelles sont les solutions alternatives à cette utilisation du bois dans le but d'une meilleure sauvegarde de l'environnement et de la forêt au Niger? Ce sont là les principales interrogations auxquelles nous tenterons de trouver des éléments de réponse au cours de ce forum de 3 quarts d'heure. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Yaye Gamache Mokhtar. Il est le représentant de la direction général des eaux et forêts du ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification. Sani Ayouba, directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE. Et enfin, Dr Bachirou Bodo, il est enseignant-chercheur à l'université Boubacar Ba de Tillabéri et membre de l'initiative pour l'arbre. Bonsoir, chers invités.
Bonsoir.
Et bienvenue à la modération de ce forum. Je suis Michel Dégé. Une fois de plus, bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans le forum de ce soir de Studio Kalangou ayant pour thème « Quelle solution alternative à l'utilisation du bois pour la fête de Tabaski au Niger ?» Avant d'entrer dans le vif du sujet, suivons cet éclairage du prédicateur Oustaz Haladou Yahya sur l'importance de ce sacrifice et son avis par rapport à la question de cette grillade telle qu'elle est pratiquée, notamment dans la ville de Niamey. Nous l'écoutons.
Le sacrifice de la fête de Tabaski relève d'une grande histoire. Quand le prophète Ibrahim a fait un rêve de faire sacrifice à son Seigneur, le rêve du prophète est vérité. Donc il a fait face non seulement à sa conviction sincère de faire le sacrifice avec son fils Ismaël s'est montré soumis. De même que sa mère, au moment d'accomplir l'acte, Malaïka Jibril a remplacé Ismaël par un gigantesque bélier, un magnifique bélier venant du paradis. Et on rapporte que c'est le mouton que le fils de Adam, le pasteur, a sacrifié. C'est ce même mouton qui était au paradis, donc qui a été apporté à Ibrahim pour faire son sacrifice. Donc c'est en imitation, c'est en commémorant spirituellement cet acte noble que les musulmans font le sacrifice. Et quand on a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le mérite et le sens de ce sacrifice, il a dit que l'homme n'accomplit jamais un acte meilleur qui plaît plus à Allah le jour de la fête de Tabaski que d'immoler à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de la résurrection, l'animal viendra intact avec cornes, laine et sabots, et le sang qui jaillira sera quand de Dieu et par Dieu avant même qu'elle parvienne au sol. Et quand on lui a demandé quel est le sens de ce sacrifice, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est la sunna de votre père Ibrahim. Et quel est l'intérêt? Il a dit pour chaque poil, on vous comptera une bonne œuvre. Et quant à la laine, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu et même pour chaque laine. Donc le sacrifice de la fête de Tabaski, c'est un sacrifice qui descend de sunna. La sunna du prophète Ibrahim, qu'on qualifie du père du monothéisme, et celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a l'habitude de sacrifier un grand bélier cornu, comme l'a témoigné Aïcha radiallahu anha. Donc c'est ce sacrifice que les musulmans qui ont la possibilité doivent faire à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est seulement pour ceux qui ont les moyens. Allah ne fait pas peser sur une âme ce qu'elle ne peut pas endossée. Quant à la question relative à la grillade, le plus important, c'est de le faire avec les animaux qui ont l'âge requis, mais aussi choisir un animal sain et bien portant. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin forcément de procéder à la grillade, surtout pendant ces dernières années. On parle beaucoup de la désertification. Nous avons besoin de gérer l'écosystème, l'environnement. Donc la grillade, ce n'est pas obligé.
La grillade n'est donc pas une obligation selon le prédicateur Oustaz Haladou Yahya, propos recueillis par le studio Kalangou. Voyons alors tout d'abord les conséquences de l'utilisation du bois lors de cette grillade sur l'environnement au Niger. Mais pour arriver à bien cerner ces conséquences, Monsieur Yaega Mathieu Mokhtar, représentant de la Direction générale des eaux et forêts au ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, dites-nous quelle est la quantité des besoins pour cette grillade à l'occasion de cette fête de Tabaski.
Merci bien, Michel. Et je remercie aussi Kalangou pour cette initiative opportune parce que on est à un moment où, vous venez de le dire, où il y aura vraiment une demande assez forte du bois pour la grillade. Comme ce que l'a dit le prédicateur Haladou, c'est une pratique qui n'est pas obligatoire. Mais c'est devenu maintenant culturel et les gens vraiment s'adonnent à ça.
Surtout à Niamey, parce qu'à l'intérieur du pays,
tout à fait,
dans
tout
beaucoup
à fait,
de régions,
tout à fait,
on ne constate pas cette grillade.
Il y a un certain nombre de régions.
Mais il y a des personnes qui quittent Niamey, qui vont dans ces localités, qui en font également.
Tout à fait, tout à fait. Déjà, ça fait école même dans les zones où les gens ne font pas cette pratique. Maintenant, il y a déjà un pourcentage assez important. Maintenant, avec l'effet de contamination, des gens aussi qui s'adonnent à cette pratique. Ce que je veux dire, l'utilisation de... c'est une utilisation qu'on va dire qui vient en complément déjà à une demande qui est déjà forte. La demande, elle est déjà forte quotidiennement.
L'usage
du bois qu'on fait parce que plus de 90% des ménages du Niger utilisent du bois. Maintenant, à ça vient s'ajouter cette pratique.
Malgré l'avènement du gaz butane.
Tout à fait. Maintenant, à cela vient s'ajouter maintenant la fête du Tabaski, donc on va se dire que la demande sera beaucoup plus forte. Donc la demande va s'accentuer.
Mais est-ce qu'il y a des estimations par rapport au nombre de tonnes de bois, par exemple, que les gens...
C'est un peu difficile de vous donner maintenant, de façon vraiment plus ou moins exacte, des statistiques par rapport au bois utilisé lors de la fête du Tabaski. Maintenant, ce qu'on peut donner, il y a des statistiques qu'on fait avec vraiment des extrapolations. Sur le plan national, on a le besoin qui est là, qui est exprimé. Maintenant, sur le plan national, il y a un besoin qui est exprimé à plus de 4 millions de tonnes de bois par an. Ça, c'est y compris à la fête du Tabaski.
Donc, plus de 4 millions de tonnes par an.
Ça, c'est la demande.
Oui.
Et maintenant, or, nous, on a un potentiel. C'est qu'on peut offrir comme l'offre maintenant, on ne peut pas offrir au-delà de 2 millions de tonnes.
Soit la moitié.
Donc, voyez-vous, si on regarde ça d'office, on peut se dire que en comparant les chiffres, qu'on est vraiment sur une pente forte de la dégradation de nos maigres ressources ligneuses. Voilà, en quelque sorte, ce qu'on peut dire par rapport vraiment aux statistiques, c'est un peu difficile. Il y a des estimations qu'on donne, mais j'aimerais que ici, comme c'est un plateau qui est plus qui est officiel, qu'on donne vraiment des statistiques qui s'y est, qui sont officielles, qu'on peut trouver au niveau du ministère. Donc à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de statistiques fiables par rapport vraiment à la quantité du bois utilisé lors de la fête du Tabaski. Mais tous ces conseils, le bois et ses corollaires, il y a une forte utilisation. Une très forte utilisation, surtout que maintenant, c'est en train de prendre une envergure nationale avec vraiment l'effet de contamination.
Et quelles sont les zones du Niger où ces arbres sont coupés?
Les zones du Niger, si nous, on vous dit... Bon, vous savez, ici, de façon exacte, nous, on a ce qu'on appelle, les forêts qui sont aménagées, là où il y a les marchés du bois qui sont officiels. Ça veut dire que les marchés contrôlés et les marchés orientés. Les marchés orientés, c'est les bois qui sont issus, qui ne sont pas issus du moins du, euh, d'une forêt aménagée. Mmh. Mais quand même, c'est sous le contrôle aussi de l'agent forestier. C'est lui qui donne l'autorisation. Mais si vous partez prélever aussi, il y a un ordre de rigueur par rapport au type de prélèvement, aussi à la périodicité du prélèvement qui est fait. Mmh. Donc voilà les différentes sources de où vraiment on arrive à avoir le bois.
Mmh. Ça veut dire que la coupe du bois est réglementée au Niger.
Elle est bien réglementée au Niger. C'est la façon réglementée que je viens de vous dire.
Mmh. Tout à
Donc,
fait.
Maintenant, tout ce qui est issu de ça là, ça dit que ce n'est pas réglementaire.
On reviendra sur certains aspects justement par rapport à tout cela. Merci beaucoup. Monsieur Sani Ayouba, directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Quelle analyse par rapport à cette manière de célébrer la fête de Tabaski du point de vue grillade des moutons?
Oui, comme l'avait dit tout à l'heure le prédécesseur, je pense que c'est une situation qui prend de plus en plus de l'ampleur. Mmh. Auparavant, c'est que dans les grandes villes. Mmh. Mais aujourd'hui, du fait que de la mobilité et autres, donc il y a l'effet des contaminations, comme il a dit, beaucoup de régions commencent ou s'adonnent à cette pratique des grillades. Bien que on avait entendu aussi l'imam disait tout à l'heure que ce n'est pas une prescription religieuse. Parce qu'on avait fait un débat lorsqu'on sensibilisait les jeunes.
C'est-à-dire, selon l'imam, c'est que les jeunes ne sont pas obligés.
Ne sont pas obligés.
Et mais moi, on ne peut pas dire que c'est interdit.
Exactement.
Mais les jeunes ne sont pas obligés. Une fois que le sacrifice est accompli, c'est accompli.
En Arabie Saoudite, je ne pense pas qu'ils font la grillade.
Bien sûr, ça ne diminue aucunement la qualité de l'acte.
Pour nous, l'analyse qu'on fait, c'est que c'est l'effet de mode. OK, les gens trouvent que c'est le charme de la fête. Le fait que les gens se retrouvent grillés de la viande autour, tout le monde devient bouché, tout ça, ça donne une autre... En tout cas, ça renforce le caractère spécial de la journée. Mais qu'à cela n'en tienne, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la crise climatique est de plus en plus présente. Au Niger, par exemple, quand on parle de changement climatique, on ne parle plus que dans 5 ans ou dans 2 ans. Nous sommes en train de vivre les effets du changement climatique depuis quelques années, en tout cas quelques années, avec les sécheresses, avec les faibles ou les fortes précipitations, les inondations. Et tout ça, on sait très bien que l'absence des arbres fait partie des causes. Et si nous continuons à couper les arbres, c'est normal qu'il y ait ces genres de catastrophes qu'on ne peut pas. Donc pour nous, on doit fêter, mais également on doit penser à préserver les ressources qu'on a. On doit penser aux générations futures. C'est entre autres les choses que nous observons du point de vue comportement. C'est beaucoup de gens, mais Dieu merci, ces derniers temps quand même, on voit la tendance qui est en train d'être un peu renversée à d'autres détriments. Peut-être qu'on en parlera autour des solutions.
Bien sûr.
Mais voilà un peu l'analyse que nous sommes en train de faire.
Merci
et je salue quand même les régions de Diffa et Zender où j'ai eu l'habitude de célébrer, où il y a véritablement presque zéro grillade.
Merci beaucoup. On l'a dit, dans certaines localités, on ne fait pas du tout cette grillade. Mais à Niamey, c'est en tout cas une mode, si on peut l'appeler ainsi, qui est généralisée. Merci à vous, Dr Bachir Obodo, enseignant-chercheur à l'Université Boubacar Ba de Tillabéri. Quelles pourraient être les conséquences de cette utilisation abusive du bois pendant la grillade, la cuisson et tout ce qui s'ensuit, quand on prend les chiffres donnés par la Direction générale en charge des eaux et forêts, 4 millions de tonnes de besoins par an, alors que le pays ne peut offrir que normalement 2 millions de tonnes de bois.
Merci beaucoup Michel, en tout cas donc de nous avoir convié donc à ce forum là pour parler des questions qui nous intéressent beaucoup, donc les questions en lien avec l'environnement. Alors pour rebondir sur votre question, les conséquences de l'utilisation abusive donc de ces bois sont quand même assez dramatiques, parce que il faut se dire quand on coupe du bois et qu'on l'amène dans les villes pour la grillade, il faut se dire que ce sont voilà donc des forêts, ce sont la brousse qui empathie, parce que voilà donc l'arbre qui protège les sols ou bien ces champs là contre toute l'agressivité du climat se trouve être voilà donc coupé, et que voilà à la fin nous avons donc des brousses ou bien des champs qui ressemblent à des cimetières d'arbres, et ça c'est déjà donc une conséquence qui est quand même grave, parce qu'aujourd'hui quand on parle du Niger on parle directement de la désertification, et la désertification, l'arme la plus puissante pour le gérer, si vous voulez, donc c'est les arbres. Mmh. Et dès lors qu'on coupe les arbres, donc on a une montée fulgurante de cette désertification.
Nous avons d'ailleurs un territoire qui est à 3 quarts...
À 2 tiers désertique.
2 tiers, où on parle de 3 quarts parfois, oui. Désertique.
Voilà, mmh. Voilà. Et donc les statistiques montrent que nous avons l'avancée donc, du désert chaque année de 10 km. Mmh. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'il faudrait déplorer. On utilise énormément donc du bois. Ça c'est tout à fait évident qu'on participe à la dégradation en tout cas donc des terres et à la dégradation même des ressources végétales. Les statistiques montrent effectivement qu'au Niger on a autour donc de 100 à 200 000 ressources végétales, n'est-ce pas, qui sont dégradées par rapport à ça.
Mmh. Et ça, chaque année, au moins 100 000 hectares de terres arables non qu'on perd.
Voilà, qu'on perd. Et ça, ce n'est pas du tout bien. Mmh. Maintenant, du point de vue même environnemental, quand on fait de la grillade, eh bien, c'est de la combustion en fait. Mmh. Et là, donc, ça contribue au dégagement des gaz à effet de serre, notamment donc le COD, qui effectivement contribue au réchauffement de la planète. Mmh. Et toutes les questions des changements climatiques là, donc, peuvent être corrélées avec cet usage là, donc de bois. Mmh. Et donc, je pense que cette question, il faudrait beaucoup le réfléchir, parce que l'utilisation donc de ce bois-là, non seulement, je l'avais dit, a une conséquence directe sur les terres, ça peut avoir une conséquence directe sur le climat actuel, mais il y a une conséquence souvent qu'on ne voit pas. Là où on fait donc les grillades là, généralement, les gens souvent, ils abandonnent tous les détritus, donc souvent des charbons. Et moi, je me rappelle bien quand on était gamin, il y avait une voiture là qui avait marché sur un site où on a fait donc des grillades et qui n'est pas du tout... voilà, on n'a pas mis donc de l'eau pour éteindre ce feu-là, et ça a causé effectivement donc des incendies. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait comptabiliser dans le cadre justement donc de ces conséquences-là. Mm-hmm. Les conséquences sont énormes, effectivement.
Mais docteur, où est-ce qu'on a plus de conséquences plus néfastes à l'environnement? C'est-à-dire entre l'utilisation du bois et le charbon de bois, laquelle favorise plus l'avancée du désert ou protège l'environnement?
Alors, déjà le bois, c'est l'abattage systématique, hein, donc des arbres là dans les forêts ou bien dans les champs, et ça donc la conséquence elle est directe en fait déjà sur l'écosystème. Quand vous prenez par exemple le charbon, il faut déjà savoir qu'au Niger on en produit deux types, hein. Il y a le charbon qui est issu de la carbonisation du bois, hein, donc qu'on coupe dans les champs. On voit, hein, quand vous partez dans la zone de Wallam, les gens ils coupent les arbres systématiquement, ils les mettent dans des trous, ils mettent du feu, ils referment et ils produisent donc du charbon. Et ça pratiquement donc les mêmes conséquences, hein, qu'à le couper.
Ça veut dire quelqu'un qui utilise le charbon, c'est comme s'il a contribué à la coupe abusive des arbres. Parce que
ce type de charbon.
Oui, pas ce type. Naturellement, il y a le charbon minéral.
Minéral qui est issu effectivement donc des roches. Son implication dans le schéma climatique, pour ne pas dire que elle est moindre, sinon elle n'existe même pas. Parce que c'est vraiment donc du charbon qui est là et qui n'a pas une empreinte, on va dire, sur le climat. Et voilà, donc c'est à encourager l'utilisation donc de ce charbon là. Et donc on utilise le charbon de bois ou bien on utilise donc le bois directement, tout ça n'est pas du tout bien pour l'environnement, parce que c'est la ressource végétale qui protège systématiquement donc notre environnement, et quand on le coupe, les conséquences sont déjà prévisibles.
Merci beaucoup, monsieur Yaïga Mokhtar, représentant de la direction générale des eaux et forêts. La fabrication du charbon de bois est-elle autorisée au Niger alors?
Merci bien, Michel. D'abord, avant de répondre à cette question, je vais un peu rappeler les sources de provenance du bois. Comme on a déjà commencé, pour que les gens comprennent un peu comment ça se passe. Ici, nous avons, selon les bassins d'approvisionnement, nous avons deux types de marchés. Nous avons ce qu'on appelle les marchés contrôlés et les marchés orientés. Les marchés contrôlés, ce sont les marchés où on a des forêts qui ont un plan d'aménagement. Et les incontrôlés, c'est là, dans les parcs agroforestiers. Et c'est ça qu'on appelle les marchés orientés, où on te donne l'autorisation d'aller couper, toujours avec la surveillance et aussi le suivi de l'agent forestier. Donc voilà les deux sources qu'on a. Et c'est ces deux sources-là qui ravitaillent maintenant toutes les grandes villes en bois.
C'est-à-dire qu'il y a des marchés contrôlés et des marchés orientés.
Les marchés orientés, c'est en quelque sorte qu'ils ne sont pas contrôlés parce qu'ils n'ont pas de plan d'aménagement. Leur différencier, le plan d'aménagement. là où il y a la, là où le marché est contrôlé, il y a un plan d'aménagement avec une rotation qui est là. Et là-bas, ça veut dire que la dégradation, elle est faible. Elle est très faible là-bas. Ça veut dire qu'il y a au moins un temps où on donne la chance au potentiel de se reconstituer avant de revenir à la coupe. Et dans les marchés orientés, malheureusement, on n'a pas ça. C'est dans les champs, c'est dans les parcs à cours forcés que les coupes se font. Mais c'est toujours avec l'autorisation de l'agent forestier qui suit maintenant la façon de faire, qui n'arrive pas à provoquer la dégradation.
Ça veut dire que vous les accompagnez dans la coupe des bois, donc, vous leur donnez des conseils sur
tout
comment
à fait.
Il faut couper, voilà, à quel moment pour que ça n'endommage pas.
Ils peuvent utiliser ça vraiment et à d'autres fins aussi.
Quelles sont les sanctions prévues par la loi en cas de non-respect de la réglementation en vigueur en la matière?
Il y a des sanctions, bien sûr. C'est que sûr, quand tu enfreins la loi, il y a des sanctions qui sont vraiment prévues en fonction de la gravité de l'acte causé.
Maintenant, par rapport à la fabrication du charbon de bois, est-elle autorisée au Niger?
Dans toutes les 8 régions du Niger, il n'y a que la région d'Agadez et de Diffa autorisées à fabriquer du charbon.
On ne peut faire ça qu'à Diffa et à Agadez.
Et là-bas aussi, ils ont un potentiel énorme de Prosopis juliflora qui est considéré et classé parmi les plantes envahissantes terrestres.
Mais il arrive dans d'autres localités qu'on trouve des gens fabriquer ce charbon de bois pour les
transporter
pas, à Niamey et les revendre.
Il ne manque pas, mais dites-vous que c'est de façon frauduleuse. Et si ces contrevenants-là, on arrive vraiment à mettre main sur ces genres de pratiques, des personnes qui font ces genres de pratiques, la loi sera appliquée comme telle. Et c'est pour cela que ça nous inquiète et ça nous fait peur l'ampleur qu'est en train de prendre la production du charbon frauduleusement et aussi l'utilisation qui est en train d'être faite même au niveau de cette fête de Tabaski qui pointe à l'horizon.
Ça veut dire que ceux qui utilisent le charbon de bois ne contribuent pas, on peut dire, à la lutte contre cette désertification, c'est bien sûr?
Non, ça ne contribue pas.
Si c'est le charbon de bois.
Ça ne contribue pas, à mon avis, parce que ça accentue. On va voir un peu les statistiques, je vais faire un peu la comparaison pour que les gens comprennent. Parce que les gens pensent qu'en utilisant le charbon, c'est comme si on aurait un peu soulagé l'utilisation du bois. Qu'on utilise le charbon. Or, quand vous prenez les statistiques, pour avoir un kilogramme de charbon, il faut brûler 7 kg de bois vert. Voyez-vous les statistiques?
Ça veut dire qu'on a...
Ça veut dire que quand on utilise le charbon, on dégrade davantage, beaucoup plus. Beaucoup plus. Le maigre potentiel qu'on a, ça veut dire que pour avoir un sac, pour avoir une tonne de charbon, il faut brûler 7 tonnes de bois. Équivalence. Donc voyez-vous que nous, on ne peut pas a priori dire que l'utilisation du charbon de bois, parce qu'il faut le préciser, le charbon de bois ne soulage aucunement la lutte contre vraiment la désertification. Ça accentue. Ça accentue vraiment.
Merci beaucoup. Ça veut dire que le charbon de bois n'est donc pas ici la solution. Monsieur Sani Ayouba, directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, j'y vais. Pensez-vous que les populations sont suffisamment sensibilisées à ce sujet?
Je pense qu'il y a des sensibilisations qui se passent, mais dire que la population est suffisamment sensibilisée, ça j'en doute fort. Et je pense que ce n'est jamais de trop. Ce n'est jamais de trop quand on constate ce qui se passe le jour de la fête, surtout aujourd'hui avec l'utilisation du charbon. Parce que nous, en lançant une campagne digitale qu'a appelée Tabaski Écolo, nous avons appelé, en tout cas les citoyens, la communauté, à réduire la consommation du bois, à utiliser les alternatives au bois énergie. Donc, comme entre autres alternatives, en plus peut-être de certains résidus agricoles qui peuvent être transformés en briquettes ou autres charbon vert, nous avons préconisé le charbon minéral. Mais les gens trouvent toujours des choses à dire par rapport au charbon minéral. Mais les gens s'orientent davantage vers le charbon de bois. Et nous déconseillons fortement l'utilisation du charbon de bois parce que pour nous, c'est mieux d'utiliser du bois que d'utiliser du charbon de bois. Parce que rien que tout à l'heure avec les équivalences données...
Il a expliqué qu'un kilogramme de charbon, pour l'avoir, il faut 7 kilogrammes de bois.
Voilà, nous conseillons aux gens d'utiliser, puisque il y en a qui ne peuvent pas s'en passer de la grillade. Donc, nous conseillons d'utiliser le charbon minéral pour la grillade, même si c'est difficile et tout. l'allumage et tout, avec un peu de patience, ça peut prendre. C'est pas la solution écologique la plus absolue, mais quand même, pour nous, c'est le moindre mal. Quand on regarde un peu la situation du pays, du point de vue environnement, du point de vue couverture végétale et tout, on constate que on n'en a pas assez d'arbres, donc ça ne sert à rien de continuer à couper les arbres. Donc voilà pourquoi nous continuons à faire notre sensibilisation sur les réseaux sociaux, et cette année nous sommes en train d'utiliser beaucoup d'influenceurs pour passer les messages et encourager les gens à comprendre les enjeux liés à la réduction de la consommation du bois. Les efforts en termes de sensibilisation doivent continuer et chacun doit vraiment faire de son mieux, faire des efforts pour que les messages puissent passer pour un changement de comportement.
Ça doit être donc une affaire de tous. Merci beaucoup. Dr Bachir Baudouin, enseignant-chercheur à l'Université Boubacar Ba de Tillabéri et membre de l'initiative pour l'arbre. Nous avons vu à quel point l'utilisation du bois et du charbon de bois constitue donc une menace grave pour la forêt au Niger. Il faut donc à présent justement s'apesantir sur quelles pourraient être les solutions alternatives à cette utilisation du bois dans le but d'une meilleure sauvegarde de l'environnement et de la forêt au Niger. Quelles sont ces solutions selon vous?
Alors, je pense que la première des solutions, il faut se référer à ce qu'avait dit tout à l'heure l'imam, le zéro grillade. Parce que voilà, ce n'est pas une obligation de faire cette grillade-là, et ça sous-entend que ça va nous épargner l'utilisation vraiment donc du bois ou bien du charbon du bois.
Ça, c'est pour ceux qui souhaiteraient ne pas du tout griller leur viande, mais quand quelqu'un achète son mouton, il est libre quand même, on ne peut pas lui interdire de griller comme il veut.
Exactement.
Donc pour ces personnes, quel conseil? C'est l'idéal que les acteurs de l'environnement souhaiteraient zéro grillade, mais pour les personnes qui se sentent obligées de griller leur carcasse de mouton, quelle pourrait être la solution à faire ici pour ne pas aggraver la situation en termes de coupe abusive de bois et d'avancée du désert au Niger?
Voilà, maintenant pour ce qui est des solutions, en tout cas écologiques, il faudrait penser déjà à l'utilisation du charbon minéral. Le charbon minéral, c'est vrai, au Niger, la production, elle n'est pas assez importante, et j'en doute fort que ça puisse suffire, en tout cas, à toute la population, donc, de l'utiliser.
Mais ce charbon minéral, justement, il y a beaucoup qui se plaignent de son utilisation. Ils disent que, bon, ça prend difficilement, on dirait du caillou, que vraiment, ça ne donne pas, quoi. C'est quoi le problème en réalité?
L'enjeu qu'il faudrait regarder,
c'est... On a parlé de JVE.
L'enjeu qu'il faudrait regarder, c'est l'enjeu environnemental. C'est vrai, quand vous mettez, quand vous utilisez le charbon minéral, ça prend du temps parce que c'est des gisements qu'on exploite, et ces gisements-là ont une certaine durée. Ils sont très consistants et effectivement, donc ça prend du temps. Mais dès que le feu prend, c'est fini. Donc ça veut dire que avec peu de charbon, vous pouvez déjà faire la grillade de plusieurs moutons.
Donc ça veut dire que c'est plus économique, vous comprend bien, par rapport au charbon de bois.
Mais absolument, c'est plus économique, mais c'est également beaucoup plus écologique à l'utiliser. Maintenant, le problème qui se pose, c'est sa quantité qui est vraiment très petite, en fait.
Prenez la question de la disponibilité.
Société, voilà. Et quand vous prenez même, par exemple, la société nigérienne de carbonisation du charbon, on voit que dans l'année, c'est 1800 tonnes que ça produit, alors qu'à Niamey seulement, l'utilisation donc du bois, ou bien la demande même en énergie pour uniquement la fête de Tabaski, tourne autour donc de 25 à 30 000 tonnes. Et donc, ce n'est jamais suffisant.
Tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à ce niveau alors, puisque ce n'est pas suffisant, ce charbon minéral?
Oui, il faudrait encourager donc l'exploitation, parce que nous avons une industrie qui est là sur place. Il faudrait encourager effectivement la production annuelle. Maintenant, en termes donc de solutions écologiques, tout à l'heure Sani parlait des charbons verts. Le charbon vert, c'est vraiment une source potentielle qu'on peut utiliser.
Expliquez-nous ce concept qu'on voit sur les réseaux sociaux. Le charbon vert, ça veut dire
quoi? Le charbon vert, c'est, si vous voulez, des substrats organiques qu'on utilise, on les carbonise pour pouvoir produire du charbon. On peut utiliser beaucoup de substrats. Par exemple, au Niger, on est confronté par exemple à un problème de la jacinthe d'eau, à un problème de typha australis, à un problème souvent même de déchets organiques partout dans les déportoirs sauvages dans la ville de Niamey. Ces substrats-là peuvent être récupérés carbonisé donc à travers des procédés donc de pyrolyse pour faire donc des charbons verts qu'on peut effectivement donc utiliser. Ça, ce sont vraiment donc des solutions qu'on peut envisager qui peuvent avoir donc déjà un impact certain dans le cadre de la lutte contre par exemple les plantes adventices là ou par exemple les déchets organiques qu'on voit partout à Niamey. Il y a également quelque chose qui est fondamental, par exemple ce sont les foyers d'énergie là. Les foyers d'énergie, on peut utiliser également d'autres substrats. Donc quand vous prenez par exemple au Niger, on voit par exemple dans la période de la canne à sucre, ce sont des quantités importantes de déchets de canne à sucre qui sont jetés. Ou bien quand vous prenez par exemple la doum là, donc juste après son utilisation, on les jette. Ce sont des matériaux qui sont là, qu'on peut utiliser dans le cadre justement donc de ce type de foyer là, ou bien de produire des biochars, enfin des charbons verts, pour pouvoir faire voilà donc utiliser en termes d'énergie et procéder justement soit à frire ou bien à griller donc les moutons.
Mais qui est censé faire ça? Par exemple des dooms qu'on les amène et qu'on les allume pour dire, est-ce que mentalement les gens se sont
mentalement
préparés
les gens
à ça?
Ne sont pas,
parce que quand quelqu'un fait ça, on a l'impression qu'il n'a pas les moyens. Que...
Exactement. C'est pour cela que la sensibilisation des populations sur toutes les techniques respectueuses de l'environnement et à encourager. Aujourd'hui, si on dit à chaque ménage que les déchets que vous produisez, donc les déchets organiques que vous les produisez, on leur montre les procédés de comment est-ce qu'on peut transformer ces déchets-là en
combustible.
En vert. Voilà, donc déjà, on aura beaucoup à gagner. Et il faudrait vraiment sensibiliser les populations. La sensibilisation donc des populations va avoir ce double impact-là, non seulement tout ce qui est déchets, tout ce qui est substrat qui gêne, soit utilisé pour produire en tout cas donc de l'énergie. Je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire et cette sensibilisation là, c'est ça qui va nous amener voilà donc à pouvoir mettre fin à cette utilisation excessive. Maintenant, il y a un volet qui est intéressant. Il y a par exemple les bois d'énergie. Tout à l'heure, on commençait donc à parler. Les bois d'énergie, c'est quelque chose qui n'est pas assez développé au Niger. Et donc, si on en fait un peu de la sylviculture.
Les bois d'énergie.
Les bois d'énergie, par exemple, c'est du bois qu'on utilise. Par exemple, vous avez des exploitations, donc vous plantez des arbres, d'accord. Donc ça qu'on appelle la sylviculture. Vous plantez dans le but justement donc de produire du bois. Et ça, c'est encouragé parce que vous le faites en même temps, il y a des procédés que vous utilisez pour pouvoir voilà faire la production de ce bois là sans nuire à l'environnement. Et ailleurs hein, c'est bien développé au Niger, je pense qu'il y a, je pense le contrôle de Gamache, il y a quelques privés hein, qui commencent à s'intéresser surtout dans la zone de Dosso à planter par exemple de l'eucalyptus qu'on connaît hein, qui est quand même un puissant élément qu'on peut utiliser en termes de bois d'énergie. Et on peut surtout par exemple profiter de toutes les zones d'inondation là pour pouvoir valoriser donc ces zones là pour produire du bois d'énergie. Donc ce sont des solutions quand même qui sont apportées de tout le monde, il faut juste les savoir et les mettre en application.
Merci beaucoup monsieur Yaye Gamache Mokhtar, représentant de la direction générale des eaux et forêts. On constate donc qu'il y a des solutions alternatives et de plus en plus on recommande le charbon minéral au lieu du charbon de bois pour cette grillade de moutons. Que faut-il comprendre de particulier à ce niveau par rapport au charbon minéral, par rapport à tout ce qui est dit? Certains se plaignent du fait que c'est pas disponible, des inquiétudes par rapport à son utilisation. Comment vous appréhendez ce problème au niveau de la direction générale des eaux et forêts?
Merci Michel. Je vais d'abord revenir sur d'abord les solutions alternatives parce que nous, comment on les entend, comment vraiment on
c'est
veut
vrai,
que ça soit.
Le charbon minéral, c'est juste une solution parmi
tout à fait.
Tant d'autres, vous en avez d'autres
tout à fait,
en
tout
dehors
à fait.
De ce qu'il a
tout
dit.
Tout à fait, oui. Donc nous, la solution alternative, vraiment, c'est cette solution-là qui va beaucoup soulager le limu, le couvert végétal. C'est-à-dire qui va vraiment favoriser l'amélioration de ce couvert végétal. Donc tout ce qui rime avec l'utilisation de ces lignes-là, pour nous, n'est pas vraiment une solution alternative. Du coup, quand vous venez de le dire, hein, le charbon minéral est une des solutions. D'abord, dans la contribution déterminée du Niger, actualisée, révisée, ça fait partie aussi des leviers qui sont préconisés. Donc, le charbon minéral, c'est une solution du fait que Je vais toujours dans les comparaisons pour que les gens comprennent un peu. La comparaison, c'est que quand vous prenez un kilogramme de charbon minéral en équivalence, c'est que lui, il peut produire comme source d'énergie, il faut brûler 3,5 kilogrammes de bois. Et lui, il est propre. C'est l'énergie propre.
Mais les gens disent que c'est difficile de l'allumer. Oui,
on arrive là pour ça. Tout ça là, c'est une question de mentalité. Vous savez, nous, on est rigide au changement. Le changement là, ça prend du temps. C'est vrai, il y a tous ces aspects là que les gens disent, mais aussi il y a un effort qui est en train d'être fait dans le sens de le rendre plus combustible. Parce que le problème, c'est que les gens disent qu'il ne prend pas feu rapidement. C'est le problème qui est souligné. Maintenant, quand on prend maintenant...
Mais est-ce qu'il y a des techniques pour que, justement, déjà, ça prenne plus facilement? Déjà, Baudet
a dit qu'il y a une entreprise qui carbonise. Quand on le carbonise, on le rend beaucoup plus facile maintenant à s'enflammer, à prendre flamme. Maintenant, quand vous prenez cette solution alternative d'utilisation du charbon minéral, et l'utilisation maintenant des sources d'énergie lors de la fête du tabac, parce qu'on va voir qu'il ne répond pas véritablement au dixième du besoin de la population, du fait qu'il n'est pas disponible.
Mais donc, pourquoi on n'arrive pas à produire suffisamment ce charbon minéral? Il faut dire qu'on dispose d'un gisement de charbon à Rennes, qui est exploité par la Sonichar, par exemple.
Le rendre disponible, ça dépend de la demande. Parce que plus les gens l'utilisent, plus les gens comprennent que lui-même, on peut le carboniser et on le rend disponible et accessible, ce charbon minéral carbonisé. Et plus aussi, l'exploitation va se faire. Parce que ça va générer des revenus. Les gens ne vont pas produire du charbon pour le stocker et maintenant ne pas trouver celui qui va le prendre.
Ça veut dire qu'il y a un travail qui est là à faire.
Il y a un travail
c'est
en amont
celui de
faire
la promotion du charbon minéral, sensibiliser et créer les conditions pour que ce charbon soit disponible en quantité suffisante et qu'il soit également carbonisé pour que ça soit plus facile à utiliser.
Vous allez voir que ces deux dernières années-là...
Parce que c'est plus bénéfique que vous dites. Et l'avantage ici, c'est qu'on n'utilise pas du tout du bois.
Entre autres, comme solution, la meilleure, c'est ce que Baudet disait, zéro grillade. Comme ce n'est pas une obligation, c'est culturel. Si les gens peuvent s'en passer de ça, je pense que c'est la meilleure solution. Mais à défaut de ça aussi, il faut y songer. Maintenant que le Niger est un pays aussi producteur du gaz, pourquoi ne pas aussi réfléchir dans le sens maintenant de voir, même si c'est pour fourrer, avoir des fours à gaz.
Où les là, gens il y a des fours qui coûtent cher.
Tu amènes ton mouton, maintenant on te grille ça. Et tu viens, tu récupères. Et j'ai vu maintenant, déjà, l'initiative commence à venir petit à petit. Parce que là où les gens font les méchus, là, pendant la fête, tout ça, parce qu'il y a des gens qui transportent des moutons là-bas. Tu amènes ton mouton, tu payes. Le soir, tu reviens, tu récupères. Alors maintenant, si on met l'accent un peu sur ça, malgré que le gaz, on n'en a pas aussi suffisamment, mais ça peut aussi soulager nos ressources. Parce qu'en termes de pouvoir calorifique, quand vous prenez un kilogramme de gaz, si vous le brûlez, ce qu'il va vous livrer comme potentiel calorifique, il faut brûler 10,5 kg de bois. C'est énorme.
C'est énorme.
Ça veut dire que l'énergie qui va produire le gaz est 10,5 fois plus que le bois. Donc maintenant, c'est d'aller dans ce sens-là. Comme déjà, nous, on est pays producteur. Et que toute solution alternative, on veut qu'elle soit écologique. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas source les ligneux ou les herbacées. Et si on arrive à avoir ça, c'est déjà bien. C'est vrai, c'est vraiment une dynamique. Ça va prendre du temps, mais petit à petit, avec maintenant les organisations non gouvernementales qui ont mis la main dans la pâte, qui continuent à faire la sensibilisation, comme aussi Kalangou, qui continue à sensibiliser, à informer, il y a vraiment un regain d'intérêt vers ce charbon minéral et aussi, petit à petit, peut-être même le gaz. Avoir des fours à gaz qui vont nous permettre de cuire notre viande. Parce que, généralement, les gens qui font ça là, ils vont vous dire que non, ça permet la conservation. Tant que tu ne grilles pas, tu ne conserves pas bien la viande. Mais en grillant, tu conserves et puis tu peux donner à la personne qui, directement, elle peut le manger. Il y a toutes ces considérations qui sont là. Donc, changer ses mentalités, c'est difficile.
Ça veut dire qu'il y a un travail de mentalité
à faire. Et vous savez que quand on dit travail de mentalité, ça prend beaucoup de temps. Mais je pense que la solution la plus idoine, c'est d'aller vers les solutions alternatives. Le gaz, et le charbon minéral.
Merci beaucoup. Sania Yuba de JV, jeune volontaire pour l'environnement. Est-ce que vous avez encore d'autres solutions alternatives par rapport à cela et un appel particulier à lancer à l'endroit de la population à moins de 48 heures de la célébration de cette fête de Tabaski au Niger?
Le slogan de notre campagne Tabaski Écolo est un mouton égorgé, un arbre planté.
C'est une autre alternative. C'est-à-dire quand on célèbre la fête, il faut aussi planter comme ce qu'on fait.
Pour compenser. Et le bois que nous allons utiliser pour la grillade. Nous pensons que plus...
Là encore, c'est une grande problématique parce que comment arriver à obtenir les plans?
Nous, au niveau de la campagne, nous avons demandé à qui des plans au niveau de la ville de Niamey qui sont disponibles dans nos locaux, au niveau de nos plateformes, puisque c'est plusieurs organisations. Les gens peuvent passer récupérer les plans. En tout cas, nous avons presque un millier de plans disponibles que les gens peuvent planter. Et il faut encourager, surtout, parce que imaginez, il y a plus de 200 000 moutons qui seront égorgés. Donc, si ne serait-ce que 200 000 plans qu'on met sous terre et qu'on entretient à la prochaine tabasserie,
ce n'est pas rien.
Je pense que ce n'est pas rien. Ça va contribuer dans les réverdissements de nos villes. Ça va rehausser aussi le couvert végétal qui est en train de disparaître.
Merci beaucoup. Donc, en dehors de toutes ces propositions faites en termes de solutions alternatives, ce que vous proposez également, c'est de planter le jour de la fête ou peut-être le lendemain, c'est ça?
Même si c'est le lendemain, l'essentiel est que les gens, dès qu'on pense à un grand événement, qu'on pense au reboisement pour tout aider notre pays à sortir, en tout cas, ou bien à faire face aux différents chocs liés à l'absence des arbres.
Merci beaucoup, Dr. Bachir Bodo. Pour terminer, avez-vous un appel particulier en tant que chercheur, on le sait bien, dans le domaine de la pédologie? Et je rappelle que vous êtes ancien chercheur à l'université Boubacar Ba de Tel Aviv.
Je veux vous dire que pour des pays comme les nôtres, donc des pays arides comme le Niger, notre avenir se trouve dans les arbres. Donc il faudrait penser à inculquer cette mentalité-là aux citoyens pour l'amour de l'arbre. Parce que quand nous arrivons à planter des arbres, ça va nous amener effectivement, malgré qu'on va consommer du bois pour la fête, on a au moins anticipé donc ce volet-là. Donc le reboisement, que ça soit dans les centres urbains, que ça soit dans les zones rurales, que ça soit dans les champs, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait encourager. Donc l'alternative, moi pour moi, en lien avec ce problème-là donc de consommation en bois, c'est la plantation d'arbres. Parce que plus on plante, plus on est à mesure effectivement de créer des puits de carbone pour pouvoir juguler les questions de changement climatique. Aujourd'hui, on a des sérieux problèmes quand même au Niger. On voit la disparition progressive, sinon systématique, hein, de la ceinture verte. Donc ce sont des questions qu'il faudrait remettre sur la table et encourager effectivement donc les populations, l'État, les structures à aller vers la plantation d'arbres parce que, comme je l'ai dit une fois de plus, des pays comme les nôtres, notre avenir se trouve dans les arbres.
Il faut donc une synergie d'action très forte d'ailleurs qui va impliquer l'État, les acteurs de l'environnement que vous êtes et tous les partenaires du
Absolument.
Domaine,
on a la chance aujourd'hui que la Grande Muraille Verte est actualisée. Cette Grande Muraille Verte se base fondamentalement sur la plantation d'arbres, donc sur le reboisement. Si, par exemple, nos États, ou bien spécifiquement le Niger, on arrive en tout cas à agir pour que on puisse avoir beaucoup plus de reboisement, je pense que la question même du bois ne sera pas vraiment problématique. Voilà.
Merci beaucoup, chers auditeurs. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangu qui a eu pour thème « Quelles solutions alternatives à l'utilisation du bois pour la fête de Tabaski au Niger ?» Nos invités, qui sont tous des acteurs du domaine de l'environnement, estiment qu'il y a plusieurs alternatives. Il s'agit d'abord de zéro grillade, c'est-à-dire ne pas du tout griller cette viande à l'occasion de la fête, puisque selon le prédicateur Oustaz Ahladou Yahya que nous avons suivi à l'entame de ce forum, le sacrifice peut être bien accompli, même s'il n'y a pas eu de grillade, pour résumer. Il y a aussi une autre alternative proposée, c'est l'utilisation du charbon minéral. Il faut faire attention, le charbon minéral est différent du charbon de bois. par rapport aux difficultés en lien avec cette utilisation, il faut continuer les sensibilisations et faire un travail qui permet donc de mieux utiliser ce charbon minéral pour ceux qui disent très souvent qu'ils ont des difficultés d'usage. Et enfin, il faut planter beaucoup d'arbres. Il existe donc plusieurs solutions alternatives, dont celle que je viens de rappeler. Vous avez à écouter nos invités par rapport donc à toutes ces solutions alternatives. Nous étions en compagnie de M. Yaye Gamache Mokhtar. Il est le représentant de la Direction générale des eaux et forêts du ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification. Sani Ayouba, directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, JVE, et de Dr Bachir Bodo. Il est enseignant-chercheur à l'Université Boubacar Ba de Tillabéri et membre de l'initiative pour l'arbre. Nous remercions nos invités. Merci également à vous, chers auditeurs. Au micro, c'était Michel Dégé. À la technique, Issa Laoli. Bon préparatif de la fête de Tabaski et excellente soirée à toutes et à tous.